Alors, bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'épître de Paul à Tite, donc dans le livre de Tite. Dans le Nouveau Testament, c'est vers la fin du Nouveau Testament, c'est un petit livre qui est un petit peu avant Hébreux. Si vous partez de la fin Apocalypse, il y a les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, Jacques, Hébreux. Puis là, il y a Tite, juste collé là. Donc, wow! La salle s'est vidée avec les enfants qui partent, hein? C'est le fun, ça! Ça veut dire qu'il y a plein d'enfants. C'est... quelle bénédiction! Merci, Seigneur! Alors, le texte d'aujourd'hui, on est déjà rendu à notre avant-dernier dimanche dans l'épître de Tite. Alors, notre frère Olivier va prêcher le dernier message sur Tite la semaine prochaine. Et moi, je vais aller sur Internet à églisesaintléonard.com pour le télécharger et pour l'écouter. Et vous pouvez faire de même si vous n'êtes pas là un dimanche pour entendre les messages du dimanche. Alors, le texte d'aujourd'hui, Tite 3, versets 1 à 8, va pas mal dans la même veine que le texte de la semaine passée, qui parlait très clairement du salut. On avait vu deux facettes transformatrices du salut, ce que Jésus avait accompli pour nous à la croix. On a vu notre espérance, le retour de Jésus, et on a vu aussi de quelle façon le salut que Dieu nous a donné par grâce, qu'il a manifesté pour nous, et dans notre vie, il se manifeste et Dieu nous appelle à renoncer au mal et à pratiquer le bien, à pratiquer de belles œuvres. On va voir ça, c'est un thème qui traverse toute l'épître de Tite, particulièrement les chapitres 2 et 3. Paul encourage Tite à encourager les églises de Crète à pratiquer de belles œuvres à cause du grand salut qu'ils ont reçu. Je vais lire Tite 3, les versets 1 à 8. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, ou à sa miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Voici la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Merci Seigneur d'avoir inspiré tes apôtres, tes prophètes, à travers les siècles, à travers les millénaires. Merci de les avoir guidés par ton esprit, Seigneur. De ce que tout en gardant leur personnalité, tu as gardé leurs mains et leur cœur d'écrire quelconque erreur, Seigneur. On le voit que ta parole demeure pour toujours, que ta parole est la vérité, comme Jésus le disait. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné la Bible, ta parole. Merci de ce que, par elle, tu nous apprends qui nous sommes, Seigneur. Tu nous apprends qui tu es. Et tu nous apprends comment... quelle est ta volonté, Seigneur, et comment vivre en relation avec toi? Merci Seigneur pour ce texte, ce magnifique passage. Merci pour ton magnifique salut. On prie Seigneur que tu éclaires nos cœurs par ton esprit qui nous parle par ce passage ce matin. Et on prie que tu puisses continuer l'œuvre en nous, Seigneur, que tu vas accomplir. Continuer à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. En son nom, nous te prions. Amen. Alors, un autre très beau passage qui parle du grand salut de Dieu. Alors, je suis privilégié, j'ai hérité, je trouve, des deux plus beaux passages de l'Épître de Tite, donc celui de la semaine passée et celui de cette semaine, qui parle du grand salut que Dieu nous a fait. Parfois, quand on lit le Nouveau Testament, on lit la Bible, on dit, bon, il y a toutes sortes d'instructions, il y a toutes sortes d'enseignements sur qui Jésus était, ce que Jésus a fait, mais des fois, on dit, ah, ben, il y a tel verset ici qui parle du salut, il y a tel verset ici, où sont ces versets-là qui parlent du salut d'une façon complète? Bien, évidemment, la Bible se veut comme un tout. On doit lire la Bible à la lumière de la Bible, mais ces deux passages-là, Tite 2, 11 à 14, qu'on a vu la semaine passée, celui aujourd'hui, Tite 3, surtout les versets 3 à 7, nous montrent un superbe portrait, en résumé, en quelques versets, du message du salut. Un autre passage que peut-être vous connaissez bien, c'est Éphésiens 2, 1 à 10, où ça dit que, je vais juste éviter de mal citer, là, au début, ça dit, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés que vous pratiquiez autrefois, mais Dieu est riche en compassion, verset 4, ce qu'il a fait pour nous, et le verset que, est-ce que c'est Serge qui a lu tantôt, ou c'est... C'est Daniel, je ne m'en souviens plus, au verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, je pense que c'est Daniel qui l'a lu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Alors ça, c'est un autre beau texte. Si vous parlez avec quelqu'un, puis vous ne voulez pas juste enseigner par vous-même, « Ah ouais, c'est ce que la Bible dit. » Ouais, OK, c'est où? Je ne m'en rappelle plus. Ben ça, c'est des bons petits textes. Éphésiens 2, 1 à 10. Ou Tite 2, 11 à 14. Ou Tite 3, 3 à 7. Qu'on va voir aujourd'hui. C'est des bons passage qui, c'est la théologie du salut en concentré, là. On a pris les trois pamplemousses, là, puis on les a pressés, puis ça nous donne du jus bien concentré, de la belle théologie sur le salut que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de facettes au salut, il y en a plusieurs qu'on voit ici. C'est un petit peu comme les pétales d'une fleur. On voit une belle fleur, une seule pétale, en général, c'est pas une très belle fleur. Mais quand il y a plusieurs pétales, waouh, ça rend la fleur superbe. Ou un diamant qui a juste 5-6 côtés, c'est pas un diamant très bien taillé. Mais lorsqu'il a des dizaines de côtés, le diamant qui est si bien ficelé, alors il est vraiment radieux. Alors, ces différentes facettes du salut, il y en a au moins 6 qu'on peut voir ici dans notre passage ce matin. C'est comme ces différents éléments-là qui, mis ensemble, font un tout merveilleux. Ou pour ceux d'entre vous qui aimait chanter dans une chorale ou qui aimait entendre des chants, c'est comme les différentes voix d'une chorale qui, individuellement, sont belles, mais lorsqu'elles sont mises ensemble, wow, ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, ces différentes facettes-là du salut qu'on va regarder aujourd'hui, voyons-les comme ça, un peu comme différents côtés du diamant merveilleux qui est le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Alors, la façon que j'aimerais procéder pour le temps qui me reste ce matin, c'est regarder d'abord les versets 3 à 7 qui parlent de plusieurs facettes du salut de Dieu, lui qui nous a sauvés par compassion, comme est le titre du message ce matin, sauvés par compassion. Et ensuite, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie, le fait d'être sauvé? Et c'est un appel aux bonnes œuvres. Encore une fois, j'ai dit, Benoît, tu prêches la même chose que la semaine passée. Ben, Paul prêche la même chose que la semaine passée. Alors, moi, je vais enseigner le texte, mais essayer de le faire peut-être d'une façon fraîche. Et c'est pas la répétition non plus, c'est des nouvelles facettes, des nouvelles pétales qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Alors, le premier aspect qu'on va regarder au verset 3, c'est le fait que nous étions... Et nous sommes naturellement dans un triste état de péché. nous n'étions pas très beaux à voir avant d'être sauvés. Et Paul utilise des mots assez durs. On pourrait peut-être se dire, bon, au verset 3, je ne sais pas, est-ce que j'étais si pire que ça? Est-ce que je vivais vraiment dans la méchanceté, dans l'envie? J'étais haïssable, je détestais les autres. Ben, peut-être un tout petit peu comme tout le monde, mais en général, j'étais pas si pire que ça. Mais je pense que Paul y voit bien le fond du cœur humain ici. Puis c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Que même si en surface, on peut en général bien polir notre image pour que ça soit beau pour les gens autour de nous, le Seigneur, il connaît le fond. Puis dans le fond, il y a des choses qui pourrissent. Il y a un étang où il y a des cadavres qui restent là et qui enveniment tranquillement l'eau de l'étang au complet. Paul dit au verset 3, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides ou fous. » Est-ce que c'est le fait qu'on n'est pas intelligent? Est-ce que c'est de la démence? Non, c'est une folie spirituelle. C'est le fait d'avoir voulu nous-mêmes être Dieu, de vouloir nous-mêmes choisir ce qui est bien et ce qui est mal dans notre vie et de vouloir autodéterminer notre vie, choisir par nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est ça la folie dont Dieu parle dans la Bible, dans les proverbes. Le fou, c'est quelqu'un qui ne suit pas les voies de Dieu. Alors, c'est pas nos amis qu'on aime bien, les membres de notre famille qui connaissent pas le Seigneur. Et nous-mêmes, avant, on est sous ce mot-là, fou, pas parce qu'on n'a pas d'intelligence, mais que la chose la plus importante, l'intelligence spirituelle, le fait de reconnaître Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, c'est pas encore là. Alors, stupide ou fou, rebelle, égaré, le fait de vouloir faire à notre tête, ça nous mène loin de Dieu. Ensuite, ça dit, esclave, au verset 3, suivez avec moi, esclave ou asservi à toutes sortes de passions et de plaisirs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance dans notre monde. On voit les dépendances comme un fléau de notre société. On peut penser à des choses plus graves comme dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, à la pornographie, à la sexualité illicite. Mais, vous savez, je pense qu'on a tous tous des dépendances à un certain niveau, même si elles sont parfois plus subtiles. Dépendance dans certaines relations envers certaines personnes dont on ne peut vraiment pas se passer. La dépendance envers la nourriture, envers le divertissement, envers toutes sortes de choses qu'on se dit, ah, ça, si ça m'était enlevé, peut-être envers nos enfants. Ah, si mes enfants étaient enlevés, alors là, je pense pas que je pourrais suivre Dieu. Alors, ce genre de choses-là révèle le fond de notre cœur, révèle c'est quoi que nous adorons, c'est quoi que nous aimons le plus. Dans son épître, 2 Pierre 2,19, Pierre dit, « Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. » Et le mot biblique pour dépendance, c'est l'esclavage. L'esclavage au péché, une forme de folie spirituelle. Mais gloire à Dieu que par Jésus, il nous a délivrés de l'esclavage. On l'a vu la semaine passée, Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. Titre 2, verset 14, de nous racheter de notre esclavage. Malheureusement, on continue bien souvent à vivre comme si on était toujours esclave. On retourne à nos anciens maîtres, mais peu importe les défis, peu importe les dépendances dans votre vie, certains esclavages que vous pouvez vivre, le pouvoir pour nous libérer des griffes du péché nous a été donné. Le Saint-Esprit, on va voir plutôt que Dieu a déversé sur nous en abondance, est tout-puissant pour nous mener à une vie de victoire. Dieu nous appelle à un processus de foi et de repentance avec le soutien d'autres croyants. Ne luttons pas seuls. Le Seigneur ne nous a pas simplement donné son esprit en nous, il nous a donné son esprit dans nos frères et sœurs aussi, pour nous venir en aide, pour que nous venions en aide les uns aux autres. Alors, on arrive au verset 4, et dans ce magnifique passage, les versets 4 à 7, l'expression, tout ça, là, c'est une seule phrase. Donc, en grec, ça, c'est une seule phrase, c'est une seule idée, et le verbe principal de cette phrase-là, c'est au tout début du verset 5, « Il nous a sauvés ». Ça, c'est l'idée principale, de là découle toutes ces pétales du salut. Dieu nous a sauvés. Et on voit au verset 4, avant, nous vivions dans le péché, nous étions haïssables et on s'haïssait les uns les autres. Et juste avant, je veux juste mentionner que ces passages-là, comme ça, le verset 3, là, que ça peint un portrait plutôt sombre de la vie d'un non-chrétien ou la vie avant notre conversion. Le but de ce passage-là, c'est pas de nous placer en supérieur par-dessus les gens qui ne sont pas sauvés et dire « Ah! Merci Seigneur que je ne suis plus comme ce vil pécheur! » La raison pour laquelle ça nous est donné, et là c'est particulièrement clair au verset 3, « Nous étions comme ça, mais Dieu a manifesté, verset 4, sa bonté et son amour, malgré tout ce que nous étions, malgré les horreurs dans nos oubliettes, malgré la façon dont on le traitait, qu'on vivait notre vie à notre façon, la façon qu'on traitait les autres autour de nous, malgré tout ça, verset 4, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Quel contraste! Nous qui étions, à la fin du verset 3, haïssables et qui nous détestions, peut-être pas tout le monde, mais on a tous du monde qu'on aime ne pas aimer. Alors, mais malgré ça, malgré la haine qu'il y a dans le fond de chacun de nos cœurs, qu'elle soit très évidente ou pas, la bonté et l'amour de Dieu ont été révélés. Il les a manifestés envers nous, malgré le sombre et triste état de notre cœur. Quel contraste! Que nous qui étions haineux, Dieu nous a démontré son amour envers nous. Et à ce moment-là, au verset 5, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Et là, ensuite, la suite du verset 5 nous montre quel est le fondement de notre salut. Et Paul dit, « Et Dieu ne nous a pas sauvés, il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous avons accomplis ou que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. » Le salut de Dieu est sans égard pour nos œuvres. Et ça va être, j'ai hâte d'entendre à notre conférence sur la réforme, parce que c'est le plus grand joyau qui avait été perdu pendant des siècles où la Bible était de moins en moins lue, de moins en moins étudiée, et de plus en plus la religion, les actes de repentance. Et là, c'était rendu grave, là, c'était rendu les indulgences où tu pouvais essentiellement t'acheter le ciel si tu achetais une indulgence qui allait financer la basilique Saint-Pierre de Rome. Pour toi-même ou pour un de tes bien-aimés. Alors, même si aujourd'hui, rares sont les églises qui vont le dire clairement, vous pouvez vous acheter le ciel, on va passer l'offrande, alors si vous mettez 100 $ ou plus, ou 2 000 $ par année, ou je ne sais pas combien, alors vous pouvez avoir l'assurance que vous serez pardonné de vos péchés. Ou des formes tordues de ça. Quelle abomination! Quelle abomination! Mais malgré que ce n'est pas une question d'argent, souvent nous-mêmes, on a tendance à vouloir rajouter à notre salut pas recevoir pleinement l'amour de Dieu tel qu'il est par grâce, mais on veut y ajouter quelque chose, on veut mériter la faveur de Dieu. Mais Paul nous dit, Dieu ne nous a pas sauvés à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. J'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai trouvé ça il y a quelques mois, c'est un vieux traité qui s'appelle La Perle Merveilleuse, qui est un vieux traité qui est imprimé à Montréal. Ça raconte l'histoire d'un monsieur Morse qui était missionnaire en Inde. Et monsieur Morse, ça faisait des années qu'il était là, et il avait un bon ami qui était pêcheur de perles. Donc c'est un plongeur. Il plongeait profondément dans l'océan et avait des capacités pour retenir son souffle très longtemps et pour se rendre Là, plus c'était profond pour trouver des coquillages où il y avait des perles à l'intérieur, des perles naturelles. Et Monsieur Morse était un bon ami avec un plongeur de perles et il lui parlait de l'Évangile. Il témoignait régulièrement, mais notre ami plongeur, je me souviens plus de son nom dans l'histoire, mais je pense que c'était Ramoud. Je vais l'appeler Ramoud. Alors, Ramoud, il était. Lui, il était hindou, mais il avait vraiment cette idée-là qu'il devait souffrir pour mériter l'accès à Dieu, de mériter la grâce de Dieu ou de pouvoir accéder au paradis. Et Ramoud, il était rendu pas mal vieux, là, pour un pêcheur de perles, il était pas mal vieux, il était rendu temps qu'il prenne sa retraite. Puis il avait dit à son ami qu'il voulait faire un pèlerinage de marcher sur ses genoux jusqu'à Delhi, jusqu'à la capitale de l'Inde, et le faire un peu comme une offrande, un sacrifice pour expier ses péchés. Mais là, il était à des centaines de kilomètres de Delhi. Puis c'est un projet qu'il disait, puis le missionnaire lui disait, non, t'as pas besoin de souffrir pour gagner la faveur de Dieu. Jésus a déjà souffert à ta place. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas mériter par tes souffrances la bonté de Dieu. Puis, Ramoud, il refusait, c'est contre-intuitif. Hein? On est tous un peu orgueilleux, on veut le mériter, on veut pas avoir que ça nous soit donné. Et Ramoud, avant de partir pour son pèlerinage, il a invité son ami, le missionnaire, M. Morse, à venir chez lui. Il lui a demandé s'il pouvait venir chez lui. Il y avait quelque chose de très important dont il voulait lui parler. Alors, M. Morse s'est rendu chez Ramoud, et là, Ramoud a sorti un coffre dans lequel il l'a ouvert, et M. Morse a vu la plus belle perle qu'il avait jamais vue de sa vie. Et Ramoud a dit, je t'ai jamais parlé de ça, mais j'avais un fils, et mon fils, il était le meilleur pêcheur de perles de ce coin-ci des côtes de l'Inde. Il était capable de plonger plus longtemps que n'importe qui. Et il y a quelques années, en plongeant, il a fait une plonge qui a duré plus longtemps que d'habitude, mais il s'est rendu plus profond qu'il n'avait jamais été. Et il a sorti cette perle-là, qui est la plus belle perle que j'ai jamais vue de ma vie. Cependant, en remontant, il a dû remonter trop vite, puis il est mort dans les heures qui ont suivi. Et cette perle-là, dans le fond, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Puis comme je m'en vais maintenant à Delhi, dans une semaine, je vais partir, je veux te la donner. Tu as été là pour moi pendant tous ces moments. Je t'avais jamais partagé ça, mais je veux te la donner comme symbole d'amour pour toi. Puis là, M. Morse, il a une idée, puis il dit, Ramoud, wow, c'est. J'ai jamais vu une perle belle comme ça. J'ai aucune idée combien elle pourrait valoir, mais j'aimerais te l'acheter. Regarde, je pourrais aller à la banque. Je pourrais te l'acheter 10 000 $, 15 000 $. Est-ce que je pourrais te l'acheter? Puis là, Ramoud, il est insulté, puis il dit: Non, non, ça vaut pas 10 000 $, ça. Ça vaut pas 15 000 $. Même 1 000 000, ça pourrait pas acheter cette perle-là. Puis surtout, cette perle-là, elle a coûté la vie à mon fils. Mon fils, il est mort en ressortant cette perle-là. Il n'y a aucun argent au monde qui pourrait l'acheter. Alors, le missionnaire, qui est en train de faire une leçon d'objet, lui a dit, est-ce que tu vois pas que c'est ça la valeur du salut? C'est ça que Dieu a fait. Il a envoyé son fils mourir pour nous. Tu pourrais faire un aller-retour à Bombay 1 000 fois dans ta vie. Tu pourrais vivre 1 000 ans puis faire rien que ça de ta vie, puis tu pourrais jamais égaler la grandeur du sacrifice de Jésus. Tu ne peux pas mériter par tes œuvres. Il faut que tu acceptes de le recevoir de la même façon que tu me demandes de recevoir cette perle-là, comme à cause de ton amour pour moi. C'est de la même façon que le Seigneur t'appelle à recevoir le pardon de tes péchés, à croire en Jésus et que c'est gratuit. Et là, finalement, Ramoud, il a compris. Et dans l'histoire, ce jour-là, il a dit, wow, je comprends. Il a donné sa vie au Seigneur. Et il ne s'est pas rendu à Délie sur ses genoux parce qu'il avait reçu l'assurance du salut par le sacrifice que Jésus a fait à sa place. Alors, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Verset 5, ça dit, « C'est pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. » Ou on pourrait dire à sa miséricorde. Au verset 7, ça dit qu'on est déclaré juste par sa grâce. La grâce et la miséricorde, c'est deux choses qui se ressemblent. La grâce, c'est qu'on nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Puis la miséricorde, c'est que une punition qu'on mérite ne nous est pas donnée. Alors, à cause de sa grande miséricorde, c'est deux facettes d'une même vérité qui vont ensemble. Par sa miséricorde, Dieu ne nous a pas punis pour nos péchés, mais il a envoyé un substitut, son Fils Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, en mourant et en ressuscitant des morts le troisième jour. Nos facettes du salut continuent. Au verset 5, ça dit « À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors ça, c'est des expressions avec lesquelles on est peut-être un peu moins familier. Le bain de la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'imagé. Je pense que ça représente la même chose. Ça représente des applications lorsque le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. Notre frère Serge le lisait tantôt, un verset que j'allais citer lorsque Jésus parle à Nicodème dans Jean 3, « Il faut naître de nouveau pour accéder au royaume de Dieu. » Il dit dans Jean 3, verset 5, je vais aller le chercher. Jean 3, 5, Jésus dit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ah, c'est intéressant, on a encore ces deux images-là, l'eau et l'esprit. Probablement qu'il s'agit de la même chose. Dans l'Ancien Testament, l'eau est une image pour parler de l'Esprit de Dieu, que Dieu déverse sur nous. Et aussi au verset 6, ça dit que Dieu a déversé avec abondance sur nous, son Saint-Esprit sur nous, par Jésus-Christ, son Sauveur. Dieu nous a fait naître de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Nous ne sommes plus l'ancien nous. Notre ancienne nature demeure, mais fondamentalement, notre identité n'est plus pareille. Et on voit au verset 7 aussi que maintenant qu'on est déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, les héritiers de Dieu conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alors, je résume ces facettes du salut. Bien, au début, on n'était pas très beau à voir. Au verset 3. « Mais Dieu a manifesté sa bonté, son amour envers nous. Il nous a sauvés. » C'est quoi le fondement de notre salut? Ce n'est pas nos actes de justice, mais c'est la miséricorde de Dieu. De quelle façon Dieu l'a rendu réel dans notre cœur? C'est par le don du Saint-Esprit, le bain de la nouvelle naissance, dont le baptême est un témoignage. Verset 7, encore un sixième point, la justification par la grâce de Dieu. Et septièmement, le fait que nous devenons ses héritiers, que nous héritons la vie éternelle. Tellement d'autres passages auxquels j'aurais pu faire référence, mais je vais lire Galates 4, versets 4 à 7. Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Encore tout, c'est un autre petit joyau à multiples facettes. Le fait que Jésus est envoyé, qu'on est des enfants d'adoption, qu'il nous a donné son esprit, qu'on est héritier de Dieu, qu'on n'est plus esclave, qu'on a été libéré de l'esclavage. Quel riche salut que Dieu a versé sur nous par son Saint-Esprit. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change? En quelques minutes, En anglais, on pourrait dire « so what ». Eh bien, Paul continue au verset 8, il dit « Cette parole est certaine, tout ça, là, tout ce qui a rapport à notre salut, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Ça rappelle beaucoup ce que Paul a dit, ce qu'on a vu la semaine passée, que Jésus, il s'est donné et mort pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous continuions à vivre pour nous-mêmes. Au contraire, il nous a sauvés pour que nous vivions pour lui, que nous lui servions, que par nos œuvres, nous glorifions Dieu par le bien que nous faisons autour de nous. Et il y a au moins 4 applications de quel genre de belles œuvres est-ce qu'on peut faire. Et il va en être question la semaine prochaine aussi, mais dans les versets 1 et 2 de notre texte aujourd'hui, rapidement, quelles belles œuvres est-ce que le Seigneur nous appelle à faire par reconnaissance envers lui pour le salut qu'il nous a fait? Je mentionnerai 4 éléments, les versets 1 et 2 du chapitre 3. Tout d'abord, la soumission au gouvernement, aux autorités autour de nous. Deuxièmement, d'être prêt pour toute œuvre bonne, ça c'est générique. Troisièmement, de ne calomnier personne, donc de ne dire du mal de personne. Et quatrièmement, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Premièrement, c'est l'idée de se soumettre aux autorités et aux magistrats, leur obéir. Ça, c'est moins quelque chose qui va attirer des foules, hein? Si on enseigne ça. Ah oui! Venez à Jésus et ensuite soyez soumis à votre gouvernement. Non, nous au Québec, on est un petit peu allergique à l'autorité. C'est une des choses qui fait qu'on a de la misère à accepter d'appeler Dieu Seigneur, qui est autorité sur nos vies. Alors certainement, bon Dieu, je suis peut-être prêt. Ah, mais là, mon gouvernement. Ah, mais là, les policiers. Ah, mais là, mes professeurs. Ah, mais là, eux, ils ne le méritent pas. Dieu, oui, lui, Dieu, il le mérite. OK, je suis prêt à le faire pour Dieu, mais pour ces autres-là, ah non. Ou si ça fait mon affaire, mais pas si ça ne fait pas mon affaire. Eh bien, le Seigneur nous demande de nous soumettre aux magistrats, aux autorités et de leur obéir. Évidemment, dans le cas où ces autorités nous demanderaient de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, de pécher, d'aller donc contre notre conscience, c'est dans des circonstances comme ça où la parole de Dieu est claire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Mais obéir à Dieu, ça inclut de se soumettre à notre gouvernement, à nos autorités. Honorer nos policiers, même si certains abusent de leur pouvoir. Honorer nos dirigeants politiques. Honorer nos patrons. Honorer nos professeurs. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au secondaire, une des activités préférées comme étudiant, c'était de dénigrer les moins bons professeurs. Alors, on pouvait passer beaucoup, beaucoup de temps à faire de ça. On parlait beaucoup plus des mauvais coups de nos profs, de leurs mauvais traits de caractère ou de leurs manquements. Et j'ai tellement parlé en mal de mes professeurs que j'en ai honte. Et je pense pas que j'étais plus dur que les autres remarqués, hein? Ça, c'est une réalisation que j'ai faite plus tard. Je faisais la même chose que tout le monde. Tout le monde, on dénigre un peu nos professeurs. On avait des très bons profs, là. On n'en parlait presque pas. On aimait tellement parler des profs qu'on n'aimait pas. On parlait de ça tout le long. Toutes nos pauses. Et je pense pas que je suis tout seul dans ce bateau-là non plus. On a l'idée que le respect, ça doit se mériter. Que s'il veut que je le respecte, eh bien, il doit le mériter. Mais le Seigneur nous appelle à les respecter, même s'ils ne sont pas dignes de respect. Wow! Et peut-être un contexte particulièrement difficile où ça se présente, c'est dans le contexte du mariage. Dieu, dans Éphésiens 5, il dit à la femme de respecter son mari, de l'honorer, dans le texte, de lui être soumis. Mais il y a beaucoup de maris qui ne sont pas dignes d'honneur. Il y a beaucoup de maris qui ne sont peut-être pas dignes de respect, surtout quand on vit avec eux depuis des années. Et que on a toutes sortes de fardeaux qu'on traîne. Mais le Seigneur, il nous appelle, il vous appelle, mes sœurs, qui êtes mariées et vous qui aspirez à être mariées, à honorer votre mari, à respecter votre mari par amour pour Dieu, par honneur pour Dieu, sachant que votre plus grande autorité, c'est Dieu. Et lorsque le Seigneur fait ça, il transforme nos propres cœurs. Et parfois, il va transformer nos couples de cette façon-là. Un mari qui n'est pas digne de respect et qui ne donne pas d'amour en retour, parce qu'il ne se sent pas respecté, qu'il ne se sent pas honoré, eh bien, c'est possible que lorsque sa femme commence à le respecter, commence à l'honorer, même s'il ne mérite pas, peut-être que lui, il pense qu'il mérite, là, mais même s'il ne mérite pas, bien, c'est possible que son cœur change aussi envers sa femme, puis qu'il soit plus facilement porté à faire des œuvres de générosité, à aimer sa femme. Et, messieurs, l'envers de la médaille, ce que la Bible nous dit, c'est aimer votre femme. Sacrifiez-vous pour elle. Ah, ben ma femme, elle... Tu vis pas avec ma femme, Benoît. Eh bien, Jésus, il s'est donné pour son Église. Son Église qui était rebelle, son Église qui se tourne vers toutes sortes d'amants, son Église qui se tourne vers toutes sortes d'autres... qui veut adorer toutes sortes d'autres choses. Jésus, il continue à aller la chercher. Jésus s'est donné pour elle. Alors, à la lumière de ces choses-là, à la lumière de l'amour de Dieu pour nous qui ne le méritions pas, l'Esprit de Dieu que Dieu a déversé en nos cœurs, avec abondance, ça dit abondamment, il veut faire naître en nous un respect, même pour les gens qui ne méritent pas notre respect. Parce que ce sera d'abord une adoration envers Dieu. Deuxièmement, je vais aller rapidement, d'être prêt pour toute œuvre bonne. Je vais revenir à ma conclusion. Toutes sortes de choses. Oui, être soumis à notre gouvernement, être soumis à notre système de justice, aux policiers, à nos professeurs, à nos patrons. Comme enfant, ça serait d'être soumis ou d'honorer nos parents. Mais c'est beaucoup plus large aussi, toutes sortes d'œuvres bonnes. Ensuite, de ne calomnier personne. J'en ai déjà parlé un peu dans la façon dont on parle, dont j'ai eu tendance à parler de mes professeurs dans le passé. Souvent, lorsqu'on dit du mal des gens, c'est une grande manifestation d'orgueil. On dénigre la compétence, l'intelligence ou le caractère de quelqu'un. On fait ça en général, on tire quelqu'un vers le bas pour être capable de s'élever. Parce qu'on se pense tellement bon. Parce que nous, on est tellement meilleurs. J'aimerais nous encourager à prendre l'engagement que si on a quelque chose à redire de quelqu'un, qu'on en parle à personne avant d'aller voir cette personne-là pour lui en parler. Je me répète. Je pense que ça vaudrait la peine que je prenne l'engagement, que nous prenions l'engagement, que si on a quelque chose à redire de quelqu'un, on en parle à personne avant d'aller voir cette personne-là. Deux choses que ça va faire. Premièrement, ben, il y a beaucoup de mal qu'on va dire des gens qu'on va juste pas dire. Et deuxièmement, peut-être qu'on va avoir... Dieu va se servir de nous comme des instruments de grâce dans la vie des autres pour les amener à marcher plus fidèlement dans les voies du Seigneur. On va se retenir pas mal plus. Parce que c'est pas toutes les choses qui ont besoin d'être dites non plus. On peut couvrir. On peut pardonner. C'est correct. On peut donner le bénéfice du doute. J'ai pas besoin d'en parler. Ah, tu sais pas ce que ma collègue m'a dit au travail aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, ça c'est terrible. Ah oui. Attends, je vais appeler ma mère pour lui en parler. Éphésiens 4, 29 nous dit « Qu'aucune paroles malsaines ne sortent de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Et il dit juste après, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Wow! Je crois que lorsqu'on se fait un genre de plaisir, un peu comme les proverbes disaient, les critiques, c'est comme des friandises dans la bouche du critiqueur. On se fait un genre de plaisir de dire du mal des autres. ou de leur mauvais coup, ou de leur mauvais trait de caractère, on est en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 5:1 nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Et dernièrement, la fin de Tite 3, verset 2, « D'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Jésus, dans le Sermon sur la montagne, parmi les 8 béatitudes, a dit ces trois-ci, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » D'être pacifique, conciliant, démontrer de la douceur envers tous. Lors d'une situation tendue dans notre couple, être pacifique, conciliant, démontrer de la douceur. Lorsque nos enfants viennent de désobéir pour la 8e fois ou pour la 88e fois, avec des collègues au travail, dans nos situations autour de la vie, d'être pacifique, conciliant, de démontrer de la douceur envers tous. Est-ce qu'il est question de mollesse ici? Est-ce qu'on parle d'être mou, de se laisser manger la laine sur dos, qu'on abuse de nous? Ça peut être un peu difficile de dire c'est quoi un juste milieu à faire là-dedans? Comment être conciliant sans se laisser être systématiquement l'objet d'injustice? Eh bien, notre meilleur exemple est probablement Jésus-Christ. Lui nous a laissé un véritable exemple de douceur qui n'était pas de la faiblesse ou de la passivité. Des fois, on pourrait dire, oh, être conciliant, être pacifique, ça veut dire que, bon, si on a des désaccords, on ne va juste pas en parler. Mais ça, c'est une façon d'enterrer un volcan qui gronde, puis là, on en met plus, puis là, on en remet plus dedans. Ça finit par éclater ou par nous rendre misérables. Il faut parler des sujets dont on a besoin de parler. Mais j'ai trouvé, il y a une citation vraiment superbe que je vais vous partager, que Tim Keller, dans son livre « Rencontre avec Jésus », il parle du fait que Jésus, lorsque Marthe et Marie, leur frère Lazare est mort, lorsque Marthe est venue voir Jésus et qu'il lui a dit que son frère était mort, et il lui a répondu par la vérité. Et à Marthe, qui est venue le voir, il lui a rien dit. Il a juste pleuré avec elle. Jésus avait une sensibilité pour être capable de savoir comment répondre, être un peu plus ferme lorsqu'il fallait être ferme, et de pleurer avec ceux qui avaient besoin de pleurer. Et Keller dit ceci à propos de Jésus. « C'est ce paradoxe, le fait que Jésus soit Dieu et homme, qui lui donne une beauté indescriptible. Il est à la fois le lion et l'agneau. En dépit de ses hautes prétentions d'être Dieu, d'être le Seigneur du sabbat, il n'est jamais prétentieux. Il n'insiste jamais sur sa propre dignité. Il a beau être totalement accessible pour les êtres faibles ou brisés, il affiche un courage à toute épreuve devant les êtres corrompus et les puissants. Il est sensible, sans être faible, fort, sans être dur, humble, sans manquer de confiance en soi. Il assume de façon inébranlable son autorité sans aucun égocentrisme. Il se caractérise par la sainteté et des convictions claires tout en restant abordable. Il manifeste la puissance sans l'insensibilité. » Quelle belle citation, hein? Notre Seigneur qui est cet équilibre parfait, mais en plus, lui, il avait une sagesse pleine et parfaite aussi, il connaissait le fond du cœur de chaque personne à qui il s'adressait. Mais de pouvoir l'imiter dans sa douceur, dans sa conciliance, dans le fait de rechercher la paix avec tous. À quoi ça peut ressembler nos belles œuvres? On va en parler plus la semaine prochaine. Ça peut être une femme qui prend du temps pour préparer des repas pour une personne malade ou une mère qui vient d'accoucher. Ça peut être un chauffeur de taxi qui est honnête dans ses trajets et dans ses tarifs, même avec les clients qui sont bêtes ou arrogants. Ça peut être un couple qui lit la Bible ensemble et prie ensemble pour les besoins des gens autour d'eux. Nos belles œuvres peuvent se manifester chez une mère à la maison qui prend bien soin de ses enfants et de son foyer. Ça peut être une travailleuse qui donne le bénéfice du doute à sa collègue qui a été sèche avec elle, qui décide de lui pardonner et de ne pas parler de l'incident aux autres. Ça peut être un étudiant qui mentionne sa foi chrétienne à ses collègues de classe pendant la pause. Ça peut être un groupe d'amis qui se tiennent redevables pour leur pureté sexuelle et qui s'encouragent par l'Évangile. Nos belles œuvres, ça peut être un travailleur qui est fidèle dans son travail, même si son superviseur n'est pas là de la journée. Il y a une limite, il n'y a pas de limite aux facettes, il n'y a pas de limite à la multiplicité des belles œuvres que le Seigneur il nous appelle à faire par amour pour lui en réponse à son grand salut envers nous. Notre grande joie, c'est que nous cherchons à être zélés pour des belles œuvres, non pas pour plaire aux hommes, mais comme offrande d'amour envers Dieu. On sait que même nos plus belles œuvres ne seront jamais parfaites. Elles seront jamais dénuées d'imperfections, de péchés et de motifs partagés. Mais dans le livre « La fête dans notre sainteté » qu'on a lu dans nos 5 à 7 l'année passée, Kevin DeYoung, il disait « C'est comme un jeune enfant qui fait un dessin pour l'offrir à son papa. Même si le dessin, c'est pas si beau que ça, il apporte un sourire à son père et ça lui donne de la joie de savoir qu'il a été fait de son mieux par amour pour lui. Nos belles œuvres faites par amour pour Dieu lui font véritablement honneur. Continuons, persévérons dans la foi, dans les belles œuvres, sachant le riche, riche, riche salut dont Dieu nous a fait grâce. Que le Seigneur nous aide à l'aimer. Amen.